Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 4 mai 2023, en direct des studios de choc.ca à l'UQAM à Montréal. Donc, émission, bi-hebdomadaire, bimensuelle, je suis toujours mêlé.
Bimensuelle,
mais on était absent il y a 2 semaines. La dernière fois, c'était il y a 4 semaines. Simon était absent, celui que vous venez d'entendre.
Allô.
Et on avait parlé, entre autres, on avait une entrevue avec Youssef Brakni, une entrevue faite en France sur les enjeux de brutalité policière, entre autres, dans l'Hexagone. Donc, ben voilà, nous sommes de retour les trois. Marie-Ève est là aussi, bonjour.
Hello.
C'est Mathieu qui est au micro pour animer cette superbe émission de 70 minutes qui va parler des enjeux de racisme, frontières, immigration, colonialisme, droits humains. Etc. Et évidemment, de la bonne musique. On va avoir du rofo-rofo jazz, Simon. On va avoir les Screaming Females et aussi Brigada Flores Magón. Et quelques petites informations par-ci, par-là. Donc, j'espère que vous êtes à l'écoute. Nous sommes en direct, oui, maintenant. Mais vous pouvez nous écouter aussi sur notre page, sur le site de choc.ca et sur notre site Internet. On donnera les coordonnées à la fin. Je veux juste souligner en commençant aussi qu'il y a un mois et demi, on était beaucoup dans les histoires du chemin Roxham qui a fermé en à peine 12 heures. Il y a eu beaucoup de réactions au début, beaucoup de reportages. Il y a même eu des manifs pendant plusieurs semaines, plein de déclarations publiques. Et ensuite, on est tombé dans le drame d'Aquasasné. Et là, on a des reportages sur Aquasasné, oui, les migrants qui sont morts noyés. Et là, on a eu des reportages sur ce qui se passe avec certains migrants à Buffalo, à Portland, au Maine, qui sont bloqués. Mais c'est un peu atténué. Et là, oups, on apprend que le gouvernement du Québec va faire une autre réforme de l'immigration. On s'en parle tantôt dans l'émission. Mais je dois souligner qu'on va aussi parler du Kenya. On va aussi parler de racisme systémique et ordinaire. On va aussi parler de certaines îles, Simon, dans les prochaines minutes.
Ouais, Mayotte, Lampedusa et les Canaries.
Ooh, on se promène dans le Pacifique et dans l'Atlantique.
Ouais.
Il y aura l'agenda et le super retour de la minute coloniale aussi que Simon nous a concocté pendant ses vacances.
Ah, donc, bon? Je savais pas.
Tu savais pas? OK.
Ouais, un peu plus tard.
C'est un gros 7 minutes, oui, c'est ça. OK, voilà. Fait qu'on y va avec quelques notes de musique et ensuite on parle du rapport d'Amnesty International 2022. Donc, Amnesty International, qui se radicalise de plus en plus, je tiens à le souligner, dénonce le deux poids, deux mesures des pays occidentaux en matière de droits de la personne. C'est une blague. Mais il y en a qui disent ça.
Elle est bonne,
hein? Dans ce rapport...
Attention, ils vont être sur la liste noire antiterroriste.
Oui. Ils vont être poursuivis par Radio X. Dans ce rapport annuel pour 2022, l'organisation affirme que l'invasion russe de l'Ukraine a dévoilé au grand jour l'hypocrisie de ces pays qui ont condamné les agissements de Moscou, tout en fermant les yeux sur des violations commises par leurs alliés, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte et Israël. L'ONU souligne également un contraste avec les précédentes réactions de l'Occident à l'égard d'autres violations massives commises par la Russie dans d'autres pays, comme la Tchétchénie et la Syrie, évidemment. En plus de la guerre russe en Ukraine, le monde a été marqué par plusieurs conflits meurtriers en 2022, dont les violences en Éthiopie, qui ont fait des centaines de milliers de morts au Tigré occidental. On en a parlé à l'émission plusieurs fois. L'ONG s'en prend également aux politiques migratoires des pays européens et nord-américains, les accusant d'avoir fermé leurs portes aux réfugiés fuyant les violences en Syrie et en Afghanistan, alors qu'elles étaient grandes ouvertes pour les Ukrainiens qui voulaient échapper à la guerre. Donc, on voit le parallèle. Les États-Unis, qui ont accueilli des dizaines de milliers d'Ukrainiens, ont, entre septembre 2021 et mai 2022, expulsé plus de 25 000 Haïtiens, souvent après les avoir placés en détention et soumis nombre d'entre eux à la torture ou au mauvais traitement. Amnesty dénonce aussi le manque d'action des Occidentaux face aux violences perpétrées par la Chine à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours. Amnesty passe en revue des séries de violations répertoriées dans 156 pays à travers le monde. Violence, répression, restriction du droit à l'avortement, discrimination, accroissement des inégalités. L'ONG évoque notamment les conflits au Myanmar, en Haïti, au Mali, au Venezuela et au Yémen, entre autres, et déplore les atteintes aux droits des femmes en Iran et en Afghanistan.
Et aux États-Unis, peut-être?
Oui, ben quand tu parlais de restriction du droit à l'avortement, je pense que ça faisait ta raison, exactement, puis dans l'Amérique latine aussi. L'organisation évoque enfin l'inaction de la communauté internationale relativement à l'urgence climatique. Les États ont refusé s'attaquer au premier facteur responsable du réchauffement, la production et l'utilisation des carburants fossiles. Le Canada est écorché par Amnesty pour son bilan en matière de droits des Premières Nations et de justice climatique. D'une part, elle critique Ottawa pour son approche face au changement climatique qui ne reflète pas le niveau de responsabilité du Canada en tant qu'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par habitant au monde, ni sa capacité d'action qui a été assez ténue, disons. D'autre part, le bilan du Canada en ce qui concerne les droits des peuples autochtones est désastreux. Rien n'a été fait pour régler le problème de fond et pour redonner aux peuples autochtones le contrôle de leur territoire. Respecter le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones est impératif. Ça, c'est un extrait du rapport d'Amnesty. Et en terminant, l'ONG déplore enfin une trentaine d'avis à long terme sur l'eau potable au sein des Premières Nations, ainsi que la pollution au mercure qui continue d'empoisonner la vie de la Première Nation Grassy Narrows, et aussi l'exploitation forestière, en plus de la stérilisation forcée de femmes autochtones dans différentes provinces. Donc, c'est un petit résumé là, international et national. Je vous ai pas appris grand-chose, hein, mes collègues, c'est sûr.
Non, mais en même temps, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que les choses ne s'emmiettent pas, contrairement à ce qu'on serait en droit peut-être de s'attendre.
Oui, qu'on pourrait espérer au moins minimalement, ouais. Là. Non, c'est sûr, quand on regarde en plus ce qui se passe au Soudan ces jours-ci, comme disait un réfugié soudanais, deux psychopathes qui s'affrontent pour le contrôle, ouais. Deux militaires, c'est vraiment pathétique.
Au
là.
Congo,
en tout cas. Plein, au Congo, ben aussi, ouais, les derniers coups d'État qu'il y a eu en Afrique aussi, tout ça, puis en Amérique latine, ce qui se passe, tout ça, enfin. OK, fait que, de toute façon, il y a bien du stock dans l'émission, restez avec nous. On écoute...
Simon.
Non, on écoute Simon, il n'y a pas quelques notes de musique, c'est Simon.
Non, je chanterai pas, là, je vais continuer dans les actualités internationales. C'est un tour d'horizon quand même rapide que tu as fait. Il faut peut-être inviter les gens à lire le rapport parce que c'est quand même bien fait. C'est digeste aussi, même si c'est des
données merci assez... merci pour la recommandation.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, thématique insulaire, donc l'archipel espagnol des Canaries,
ouais.
L'île italienne de Lampedusa, dont on parle souvent, qui sont des avant-postes de l'Union européenne. Mais d'abord, un endroit moins connu, Mayotte, petite île qui est un département français contesté dans l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. Mayotte est le théâtre d'un nouvel affrontement diplomatique entre Paris et le gouvernement des Comores, le pays voisin de Mayotte, là, composé de plusieurs îles du même archipel que Mayotte.
Mm-hmm.
Le climat a toujours été tendu entre les deux États. Le statut de département français de Mayotte est remis en question par plein d'experts en géopolitique, par l'ONU, par le gouvernement des Comores, qui, depuis son indépendance, n'a cessé de réclamer que le territoire de Mayotte soit intégré à son propre territoire. C'est la même population même qui y vit. Là, le gouvernement français, sous la gouverne de Gérald Darmanin, un de nos préférés, on en a plusieurs.
Ministre du chaos.
Oui, c'est ça, ministre de
l'intérieur.
Et, ouais. Mais là, ben, on parle de département français, donc c'est considéré comme l'intérieur, même si on est à quoi, 6000 kilomètres peut-être. Il a lancé une opération baptisée Wambushu, ou reprise en maorais. En gros, il s'agit de détruire les bidonvilles et expulser les dizaines de milliers de migrants qui se trouvent à Mayotte vers les Comores, d'où provient une majorité de migrants.
Mm-hmm.
Les autorités comoriennes ne sont pas d'accord et ont déjà, par le passé, fait un peu comme les Italiens, soit fermé leur port, non pas aux bateaux de sauvetage des ONG, mais aux bateaux qui transportent des migrants que le gouvernement français veut déporter.
Mm-hmm.
En plus du refus de collaborer du gouvernement comorien, il y a d'autres obstacles à cette opération. Il y a une injonction judiciaire obtenue in extremis, je crois, le matin même du début officiel de l'opération. L'injonction interdisait de procéder jusqu'à nouvel ordre. Il y a la compagnie maritime qui assure en temps normal la liaison entre Mayotte et une des îles des Comores qui devait assurer le transfert des migrants qui a tout simplement suspendu ses activités pour éviter de se prêter à cette déportation de masse.
Mm-hmm.
Autre obstacle, la résistance des habitants des bidonvilles, ouais. Surtout les jeunes, paraît-il, qui ont érigé des barricades et on l'a vu lors d'autres tentatives d'expulsion. Ils n'hésitent pas à combattre avec des armes de fortune et des projectiles. Il y a eu des blessés, il y a eu des balles réelles qui ont été tirées par la police. Donc, cette opération Wambushu, elle devait être secrète, mais elle a fuité dans les médias. Elle doit durer 2 mois et mobiliser jusqu'à 2500 policiers et militaires, dont beaucoup venus spécialement de France.
Les chanceux.
Ah, oui, oui, on va voyager. Et l'objectif très ambitieux est d'expulser une majorité des plus de 175 000 personnes sans statut qui vivent sur l'île de Mayotte. Donc, pour donner un ordre d'idée, on expulse déjà en moyenne par année 25 000 personnes à partir de Mayotte.
Okay.
C'est la moitié de toutes les expulsions menées par la France annuellement.
Mm.
Donc, l'objectif est vraiment une déportation de masse encore plus considérable. Jusqu'à maintenant, malgré l'injonction et les résistances, je sais qu'il y a eu quelques petits bidonvilles qui ont été détruits. rendant certains migrants sans domicile, une situation déshumanisante et complètement contre-productive qui ne va pas du tout apaiser les tensions actuelles entre populations dites régulières et les personnes migrantes. Certains analystes craignent même une guerre civile à la fois si on ne fait rien et que si on mène l'opération telle que prévue. Le climat est vraiment tendu à ce point.
Mm-hmm.
Cette opération pose beaucoup de questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc, où vont aller les migrants puisque le gouvernement des Comores n'en veut pas ou ne peut pas les accueillir? Il y a une question aussi de capacité. Comment ça va stopper les migrations clandestines vers Mayotte? Comment ça va faire baisser l'insécurité puisque c'est l'argument évoqué par le gouvernement pour justifier le nettoyage social? On fait quoi avec les enfants qui sont par défaut citoyens français puisque nés à Mayotte, mais dont les parents n'ont pas de statut? C'est une situation qui me fait un peu penser aux Haïtiens de République dominicaine. Là, on va rendre des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes apatrides.
Apatrides, oui.
Sauf que là, on n'est pas sur la même île, on est sur des îles qui sont séparées. Donc, c'est un peu compliqué comme situation. La CIMAD, dans un article que je recommande fortement, qui s'intitule « Opération Wambushu à Mayotte, une île laboratoire de politique toujours plus indigne », fait le tour de ces questions-là et revendique l'arrêt immédiat de l'opération et la mise en place de mesures humaines et d'infrastructures d'accueil décentes. On continuera à suivre la situation dans les semaines à venir parce que ça évolue vraiment très rapidement.
Oui, il y a de l'action. Puis on avait parlé de Mayotte un peu il y a un mois parce que j'avais parlé de Madagascar.
OK, oui.
Il y a beaucoup de gens qui se dirigeaient vers Mayotte. Puis là, oups, ça arrive toute cette actualité-là. Fait que je pense qu'on va en parler, t'as raison. Ouais.
Oui, parce que Darmanin, il y a des ordres. Il va il y a un budget.
Oh, oui, il est déchaîné, là. Ouais.
Voilà. Donc, je passe aux îles Canaries, considérées comme de loin la route vers les îles Canaries comme la route la plus dangereuse vers l'Europe. On constate une baisse des arrivées régulières cette année, donc baisse de 63 %
okay.
en début 2023 par rapport à la même période l'an passé, donc environ 2000 arrivées versus presque 6000 l'année passée.
Mm-hmm.
Cette baisse-là n'est pas étrangère au fait que le Maroc reçoit pour le contrôle de ses frontières des centaines de millions d'euros de la part de l'Union européenne et aussi de la part de Madrid dans le cadre d'ententes bilatérales. La route des Canaries demeure toutefois très meurtrière, donc beaucoup de morts et de disparus dans les dernières semaines. C'est pourquoi la Croix-Rouge a annoncé qu'elle testait dans la région un nouvel outil qui permettra d'identifier plus facilement les cadavres sur lesquels on ne trouve aucun papier d'identité,
okay.
Qui va permettre de mieux aussi donner des réponses aux gens qui se posent des questions sur des disparus dont on n'a pas trouvé les corps. Donc,
okay.
Aux Canaries, on fonctionne actuellement de la manière suivante. Quand on doit enterrer des migrants dont l'identité est inconnue, on numérote les corps, on les documente sommairement, l'historique, le contexte. On prélève un échantillon d'ADN dans l'espoir que peut-être un jour un proche du disparu se manifeste. Et à ce moment-là, on pourra comparer les ADN pour voir s'il s'agit de la personne qui est recherchée. Il y a déjà le programme Migrants disparus de l'OIM pour l'immigration qui existe déjà, qui donne parfois des résultats, mais qui fonctionne avec les moyens actuels qui sont assez limités, dont l'ADN croisé dont je parlais, avec un recoupement des dates, des témoignages. On essaie de reconstituer le casse-tête, mais l'information reste partielle et dispersée. Souvent, les proches ne savent même pas à qui s'adresser ou ne connaissent pas l'existence du programme Migrants disparus. Donc, avec le nouvel outil baptisé SCAN pour Share, Compile and Analyze, on regroupe tous les organismes concernés, donc ils sont tous impliqués. Ils ne seront plus isolés, chacun de leur côté, avec leur propre base de données quand ils en tiennent, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, va être partagée l'information sur un naufrage, un bateau arrivé au mauvais endroit, un canot dans lequel manquent certains passagers. Et avec une certaine intelligence, le croisement de toutes les données par des algorithmes beaucoup plus puissants en temps réel, ça va permettre de déterminer beaucoup plus rapidement et facilement si oui ou non une personne est décédée lors d'un naufrage et de résoudre beaucoup plus de cas. Donc, projet en phase de déploiement actuellement, tests, formations, etc., dans la région des Canaries seulement. Ensuite, ce sera étendu à la Méditerranée, la Manche et autres routes migratoires critique.
OK, intéressant.
Intéressant, oui, ça n'empêchera pas les naufrages, mais il y aura peut-être moins de monde qui se demande pendant des années si leur frère ou leur cousine est toujours en vie, même si on n'a pas retrouvé le corps. Donc, pour les proches, ça signifie des démarches funéraires ou administratives qui pourront être complétées, des deuils qui pourraient être faits un peu plus facilement.
Mm.
Là, j'ai résumé très rapidement. Lampedusa, peut-être juste très, très rapidement, contrairement aux îles Canaries, explosion du nombre d'arrivées, 300 % de plus par rapport à la même période l'année passée. Il y a eu triple condamnation de la Cour européenne envers l'Italie pour différents dossiers. Donc, il n'y a pas eu trop de déclarations racistes de la part de la première ministre et de son ministre de l'Intérieur. Peut-être que ça les a un peu calmés. On voyait les peines imposées pour les cas pour lesquels l'Italie a été condamnée. 8500 euros par personne qui a été, par exemple, détenue ou expulsée de manière illégale.
OK. Donc, ceux, est-ce qu'ils vont le respecter? Ils vont le payer, oui?
Ben, 8 500 €, franchement, il pourrait, là.
Oui, oui, j'imagine. OK. Tu nous reparleras de Lampedusa, Simon, peut-être dans 2 semaines ou quelque
Parfait.
Chose comme ça.
Parfait, merci.
Merci à toi pour ce tour insulaire, comme tu disais. Moi, je vais poursuivre avec... on revient au Québec, on revient au Canada. Ben, on n'est jamais arrivé, finalement. On a commencé avec Amnesty.
Bienvenue au Canada.
Qui a parlé un peu du Canada. Ben, il y a des rumeurs là, de réforme d'immigration au niveau provincial au Québec. Ça a commencé le 22 avril avec un article qui parlait, je vais vous lire ça comme suit. Après une réforme qui avait soulevé de vives critiques, le programme de l'expérience québécoise, le PEC, accuse une baisse radicale de son nombre de candidats qui se présentent et qui sont acceptés. Le nombre de candidats admis au PEC, une voie d'accès à l'immigration permanente pour les étudiants et les travailleurs déjà établis et parlant français au Québec, a chuté radicalement. À peine 6 000 postulants ont pu obtenir un certificat de sélection du Québec en 2022 contre 24 000 en 2021. Selon les cibles pour 2022 du plan d'immigration du Québec, le gouvernement visait à sélectionner entre 9 et 11 000 personnes dans ce programme. Puis là, je vous rappelle que c'est... Vous avez bien écouté? 6 000. Donc, c'est une blague.
6 000?
6 000, non,
oui.
Pas 24
000? Oui, c'est 4 fois moins. En 2020, on a resserré les critères pour exiger notamment une expérience de travail post-diplôme d'au moins 1 an aux étudiants étrangers, ce qui a rallongé les délais. Pour les travailleurs temporaires, on a exigé qu'il fallait qu'ils soient dans certains domaines de pointe, donc tout le monde n'y avait plus accès. 4 jours plus tard, donc, on apprend que le gouvernement Legault contrevoit certains programmes d'immigration. Il s'apprête à abandonner une partie de la controversée réforme du PEC de M. Alain Barrette. Québec compte désormais alléger les critères d'accès à ce programme, essentiellement pour les diplômés étrangers francophones, comme vous le savez. La ministre Fréchette avait déjà avoué fin novembre vouloir une immigration exclusivement francophone et francotrope dans les prochaines années.
Et blanche.
Peut-être vous dire aussi que le nombre d'étudiants étrangers présents au Québec ne cesse d'augmenter. À l'automne dernier, c'était 54 000 étudiants étrangers qui étaient inscrits dans les universités seulement, contre 49 000 à la même période en 2021. Sinon, vous dire que le Québec, selon un autre article que j'ai lu, c'est le Québec aurait le pouvoir d'imposer des exigences linguistiques à l'admission des travailleurs et des étudiants étrangers, mais cela ne ferait pas partie de la réforme de l'immigration à laquelle travaille la ministre Christine Fréchette. Les données les plus récentes montrent que plus de 200 000 résidents non permanents se trouvent au Québec grâce à un permis de travail ou un permis d'études. De ce nombre, près de 130 000 ont dû demander un certificat d'acceptation du Québec, un...
CAC.
CAC. Or, contrairement au seuil d'immigration permanente, il n'y a pas de limite quant au nombre de CAC que le gouvernement peut octroyer chaque année. Je connaissais pas le CAC, on connaissait le CSQ, non, mais ouais. Le CAC...
Il n'y a pas de limite de CAC, ça va pas bien.
Non, secours!
Donc, tout ça pour dire que... Dans sa réforme, elle parle de tout doit être en français éventuellement, mais là, pour les travailleurs étrangers, même si c'est le fédéral qui gère, il y a certains pouvoirs au Québec, ils pourraient demander un peu de français, mais ils veulent pas le faire parce qu'ils veulent pas déplaire, évidemment, aux chambres de commerce. Donc, repoussé d'une année en raison des dernières élections provinciales, les consultations 2024-2026 visant à déterminer les prochains seuils d'immigration auront lieu à la fin de l'été. Donc, on rappelle, il y a 3 ans, ça avait été un psychodrame un peu sur le nombre... On se rappelle que ça avait été baissé. En 2023, par exemple, jusqu'à 52 500 immigrants permanents pourraient être admis au Québec. Et là, je vous disais aussi il y a à peu près un mois qu'on met un seuil pour le nombre d'immigrants permanents, mais il y a tellement d'immigrants temporaires avec toutes sortes de programmes qui finalement qu'on garde ou qu'on garde pas, le PEC, nénén. Fait que c'est complètement le chaos finalement dans les politiques d'immigration au Québec, qui est toujours très prompt à critiquer le Canada dans ses politiques.
Ben, il y a beaucoup de déclarations contradictoires de toute façon.
Et de politiques aussi qui fonctionnent pas les unes avec les autres. Donc voilà, c'était juste un petit topo pour vous dire que ça s'en vient. On suit ça dans les prochaines semaines. Et oui, je vous parlerai dans un prochain micro de Radio X.
Okay.
Donc, je prends ma feuille, on va aller en musique. Marie-Ève, c'est bien ça? Parfait, on va écouter un légendaire groupe de la Hoye parisienne, très engagé aussi, s'appelle Brigada Flores Magón, il existe depuis 1995. On sortit un album récemment, en septembre dernier, qui s'appelle Immortel. Il était en tournée au Québec récemment, je les ai vus au Fofones Electric il y a à peu près 2 semaines. C'était bien intéressant. On va écouter une pièce pas mal bonne, entraînante, on va danser, chanter ensemble, eux contre nous.
Tout leur poids, ils veulent nous faire.
Brigada Flores Magón, la pièce « Eux contre nous ». C'était assez clair, hein? On pouvait même le chanter en chœur.
Oi, oi, oi!
Donc, on va poursuivre avec Marie-Ève, oui, qui s'est installée dans le studio principal. Et va nous faire
la « oi » dans le sang.
Tout à fait. Paris, Paris. Donc, on va y aller avec, justement, c'est un peu ça qu'on a fait jouer cette pièce-là. Parler de racisme systémique et ordinaire, Marie-Ève.
Oui, surtout par rapport aux organisations que sont les villes, Mathieu. Tu nous en avais parlé là il y a un mois à peu près, un petit peu plus qu'un mois.
La ville de Montréal.
En mars, ouais. Ça. À la suite là, des allégations de racisme systémique que la ville de Montréal, contre certains de ses employés racisés, et malgré là, le rejet d'une motion de l'opposition municipale demandant une requête indépendante sur le racisme institutionnel municipal, ben l'administration Plante a envoyé un courriel à ses différents services et divisions en leur demandant de faire remonter tous les cas de racisme et de discrimination de 2022, et ce, dans un délai d'une journée.
Oui, je me rappelle, mais
quand même. Fait que la Ville-Centre, ce qu'elle voulait faire, c'était de réunir toutes les plaintes, qu'elles soient formelles ou informelles, mais aussi les griefs et les dénonciations qui portaient sur des cas de racisme, de discrimination, de harcèlement psychologique ou sexuel. Eh bien, contre toute attente,
oui.
Les résultats ont confirmé, entre autres, que les employés racisés ont vécu de la discrimination et du racisme, mais aussi sans que leur plainte soit prise au sérieux.
Oui.
Et que le numéro de téléphone réservé là, pour faire part de ces plaintes-là était inactif.
Pas une boîte vocale pleine?
En tout cas, c'était inactif. Et donc ça, c'est pour la Ville-Centre. Mais si on redescend au niveau des arrondissements, on apprend dans un article de Devoir que lors d'un atelier de sensibilisation aux enjeux de racisme et de discrimination systémique, eh bien, il y a des cadres de Saint-Léonard qui ont tenu des propos racistes, c'était le bon endroit, hein, envers les personnes musulmanes et noires.
C'était pour illustrer.
Oui, c'est ça. L'atelier s'inscrivait dans une démarche de prévention et se voulait, je cite là, les mots de l'arrondissement de Saint-Léonard, ça voulait donc un espace d'apprentissage et de formation où l'animation recadre.
T'sais. Ah oui, oui, OK.
Mais pour l'animatrice, justement, Nathalie Carénard, qui est elle-même noire, et je la cite, « Une partie de la salle a utilisé cet espace comme un défouloir et moi, la femme noire, luttant contre le racisme et les discriminations, je me suis sentie traitée comme une cible sur laquelle on peut se défouler plutôt deux fois qu'une, sans qu'il y ait la moindre conséquence. »
Oh, c'était le fun, hein?
attendez d'entendre les propos.
Oui.
Parmi ceux qui ont été tenus dans cet atelier-là, qui la dame en question, là, elle est conseillère en équité, diversité et inclusion au bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, eh bien, il y a un employé qui a affirmé qu'à Saint-Léonard, un hypothétique nouvel employé noir aurait reçu des bananes plutôt que de se faire traiter de singe, comme ça arrive ailleurs. Qu'à Saint-Léonard. À Saint-Léonard, c'est moins pire parce qu'au lieu de se faire traiter de singe, la personne aurait reçu des bananes
en cadeau. Okay.
Je rappelle que Saint-Léonard hein, est un arrondissement où 49 % des résidents et résidentes sont des personnes immigrantes et que 43 % déclarent faire partie d'une minorité visible.
Ben oui, c'est connu.
Donc, c'est pas parce qu'il y a pas de plainte ou de grief officiel que le racisme systémique existe pas, hein? Comme le rappelle d'ailleurs la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kazoki-Katawa, c'est que l'arrondissement affirme avoir reçu aucun grief de racisme ou de discrimination au cours des deux dernières années. Pour la mairesse, l'absence de ces griefs ou plaintes-là en matière de racisme pourrait s'expliquer, entre autres, par le fait que, ben, évidemment, certaines victimes n'ont pas envie nécessairement ni l'énergie d'en parler.
On parle d'employés toujours, hein, c'est ça?
Oui, voilà. Ouais. Oui. Elle pense que ce qui est important, c'est d'avoir une politique de tolérance zéro pour responsabiliser les gestionnaires face au racisme et donc savoir, ben, qu'est-ce qu'ils font quand il y a des plaintes liées au racisme ou des faits liés au racisme qui leur sont rapportés, tu sais, pour qu'ils rendent des comptes et qu'il y a des sanctions ou
des conséquences,
qu'il y ait des conséquences.
Ouais.
Et donc, ben bon, malgré le portrait là, pas très édifiant que je viens de brosser, au moins quand même la Ville-Centre et ses arrondissements commencent à agir un petit peu pour lutter contre le racisme. Contrairement à la ville de Québec.
Oh, la ville de Québec!
Qui, elle, fait plutôt la promotion du vivre ensemble et de la diversité. C'est sûr que quand la personne supposément experte qui conseille le maire remet en doute la réalité du profilage racial par la police, ça commence un petit peu mal.
C'est un policier ou...
Non. Elle s'appelle Madame Irénée Florence Harris.
Monsieur, plein
je vous
préjugés.
Donne un exemple que en mai 2021, cette experte conseil en diversité, équité et inclusion auprès du maire Bruno Marchand a déclaré ceci. J'ai toujours eu de bonnes relations avec les policiers. Ils ont toujours été très respectueux. Je ne pouvais pas m'imaginer être la seule personne noire à qui ça arrive. Donc, de son expérience personnelle, Mme Harris tire une généralisation.
Ouais, ça ressemble à d'autres personnes, ça, oui.
Et dans Le Devoir, toujours en parlant de la police de Québec, elle avait aussi affirmé, et je cite encore, qu'il n'y a personne qui est en train de se faire abattre dans les rues.
OK.
Quelques mois après cette déclaration-là, je vous rappelle que le SPVQ, c'est le SPVQ, oui, c'est cela, s'est retrouvé au cœur d'un scandale national et accusé de racisme systémique après le passage à tabac et l'arrestation de jeunes afro-descendants sur la Grande Allée.
Ouais.
Elle est toute qu'une une experte, cette madame Florence Harris, mais au-delà quand même là, de la personne de Mme Harris, c'est l'approche de la Ville de Québec qui pose problème parce que la diversité et le vivre ensemble peuvent, oui, être pertinents pour l'inclusion des personnes immigrantes, par exemple, mais ça ne l'est pas contre le racisme. Comme l'écrit Bai Haji Bairewai dans un texte d'opinion paru sur Pivot, la diversité, c'est pas l'opposé du racisme, hein? C'est plutôt la condition de l'existence du racisme. Et donc, avec l'approche de la Ville de Québec, le racisme est compris, et je le cite Monsieur Bairewai, le racisme est compris de manière réductrice, comme une croyance ou une attitude qu'on peut changer par la sensibilisation en amenant les gens à se connaître au travers d'activités socio-culturelles, sportives, etc. Et enfin, ben cette approche-là qui traite à la fois de l'immigration, des déficiences physiques, de l'accessibilité universelle, du sexisme, du racisme, etc., ben nie la spécificité de chaque discrimination et propose une solution unique pour des phénomènes variés. Bref, c'est une approche qui passe complètement à côté de la cible.
T'aimes pas les parties de balmain entre les policiers et les jeunes noirs? Je te dis. Ça a l'air tellement plaisant.
Je pense que dans ce cas-ci, je préférais des parties de balles dures.
OK. Bon, OK.
Des balles réelles.
Des balles réelles. OK.
Excusez.
Bon, on va y aller avec quelques notes de musique et je vous reviens pour parler de notre belle... On parle de Québec, Radio X.
Ben
après,
oui,
tu nous parles
tout
de,
est dans
de
tout,
l'Union
écoute.
Européenne. Ben oui, quelle feuille de route bien...
N'est-ce pas? Bien ficelée.
Bravo.
Le propriétaire de Radio X, RNC Média, multiplie les recours devant les tribunaux pour démasquer les auteurs, les auteurs de la coalition Sortons les radios poubelles de Québec.
C'est qui?
La station veut notamment faire cesser une campagne qui vise ses annonceurs, plusieurs d'entre eux étant supposément nerveux et frileux. Rappelons que Radio X a été la cible d'une importante campagne de boycottage en septembre 2021.
Ben oui, sortons les radios poubelles.
Exactement. Entre autres, même la Ville de Québec avait annoncé qu'elle cessait d'annoncer sur les ondes de la station. Le maire Labombe disant que l'antenne constitue un danger pour la santé publique. La ville dont tu parlais a depuis revu sa position et a recommencé à annoncer. En parallèle, la coalition Sortons les radios poubelles a fait circuler sur ses plateformes le nom des patrons de RNC et la liste des annonceurs de Radio X. Elle invitait les gens à écrire aux annonceurs pour leur demander d'arrêter d'y acheter de la publicité. L'entreprise médiatique poursuit donc Patrice Vachon et Julien Gaudreau. RNC pense que les deux hommes de Québec sont derrière le site et qu'ils ont animé sa page Facebook ainsi que son compte Twitter, ce que nient les principaux intéressés. Elle exige, RNC exige une série de mesures qui pourraient forcer Sortons les radios poubelles à carrément cesser ses activités. L'entreprise réclame pour le moment 10 000 $ à chacun des deux hommes. Je cite l'avocat de RNC, ils nous disent que ce ne sont pas eux, mais on ne les croit pas.
Ben bon. Oui.
Okay. Ça, c'est dans les déclarations juridiques.
Si la justice fonctionnait de même, ce serait pas compliqué.
Ils sont pas pour la liberté.
Ben oui. La cause a été entendue. Depuis, RNC a déposé 5 requêtes de type Norwich pour forcer Facebook, Twitter et des fournisseurs Internet à identifier ceux qui alimentaient le site et les réseaux sociaux de la coalition. Je connaissais pas les requêtes de titre Norwich, mais c'est pas obligé de fournir donc les gens en arrière de ça. La menace qui pèse sur la coalition inquiète la section de Québec de la Ligue des droits et libertés. Elle inquiète aussi Dominique Payette, auteur du livre « Les brutes et la punaise, les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures ». Je la cite « Les radios effacent de leur site Internet les propos controversés. Ça devient extrêmement complexe si on n'a pas cet archivage. » Donc, c'est un travail important. Radio X avait déjà poursuivi l'administrateur d'une page Facebook critique de Radio X, Jean-François Jacob, et la station avait conclu une entente à l'amiable, mais l'homme avait raconté à l'époque avoir perdu son emploi et a été contraint de quitter Québec. Écoute, je sais pas, il a quitté avec entouré de combien de doudes avec des battes de base, mais enfin, il a quitté Québec. Mmh. La coalition dit quant à elle que RNC n'a jamais tenté de la joindre pour lui demander, par exemple, de cesser sa campagne auprès des annonceurs. Je cite un porte-parole de la coalition Sortons les radios poubelles. S'ils veulent régler, qu'ils nous contactent, mais là, ils veulent seulement nous intimider. Indique Étienne Lantier, porte-parole de la coalition, qui utilise un pseudonyme tiré de Germinal d'Émile Zola. Donc, c'est ça pour l'instant. Là, c'est un peu sur pause parce qu'ils essaient d'avoir plein d'informations des fournisseurs. Ils veulent faire d'autres poursuites, mais ça joue dur à Québec entre les radios poubelles et ceux et celles qui trouvent vraiment trop nauséabonds.
Ben oui.
Marie-Ève?
Oui?
On change là, vraiment. Là.
Ben oui, on traverse l'Atlantique.
Union européenne, les enjeux de l'Union européenne.
Et oui. Je reviens en fait sur la fin mars. Je fais un petit retour dans le temps parce que il y a une série d'événements qui ont encore une fois montré que l'Union européenne ferme les yeux sur les agissements des gardes-côtes libyens en Méditerranée et aussi sur les atteintes aux droits fondamentaux des personnes migrantes en Libye par les autorités du pays. Dans son rapport, la mission d'enquête sur la situation des droits humains en Libye, qui relève de l'ONU, a confirmé la pratique de l'esclavage sexuel pour exploiter les personnes migrantes, entre autres dans les prisons du pays. Le groupe d'études a aussi documenté et constaté de nombreux cas de détention arbitraire, de meurtre, de torture, de viol, d'exécution extrajudiciaire et de disparition forcée, confirmant que ces pratiques sont largement répandues en Libye. Faut dire que depuis sa création en juin 2020, j'explique un peu là où est allé chercher la mission est allée chercher ces infos. La mission de l'ONU a conduit 400 entretiens et recueilli plus de 2800 éléments d'information sur ces accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les forces de sécurité de l'État et des milices armées. La mission va éventuellement partager ces informations avec la Cour pénale internationale pour tenter de retrouver là, et de juger les responsables de ces crimes-là. Mais la mission de l'ONU pointe aussi du doigt l'Union européenne pour son soutien financier à la Libye. Selon le rapport, le financement sert principalement à empêcher les personnes migrantes d'entrer en Europe et donc, par l'entremise de sa politique d'immigration, l'Union européenne a encouragé la commission des crimes dont je viens de parler.
Donc, c'est une roue qui tourne. Hein?
Ouais. Voilà. Mais faut dire aussi qu'il y a 2 ans, Amnesty International avait déjà affirmé que l'Union européenne était complice des atrocités subies par les personnes migrantes arrêtées en mer puis envoyées en détention. Ouais. De son côté, sans grande surprise, la commission européenne a vivement réagi à ces affirmations-là. Et elle soutient que l'argent que sert à couvrir les besoins des personnes qui se trouvent en Libye.
Bien sûr.
Pourtant, on sait très bien que l'Union européenne et ses pays membres fournissent directement ou indirectement un soutien financier et technique, ainsi que des équipements comme des bateaux aux gardes-côtes libyens et à la direction aussi de la lutte contre la migration illégale, tous deux utilisés pour intercepter et détenir des personnes migrantes. J'ajoute aussi que, selon l'Organisation internationale des migrations, l'an dernier, il y a plus de 24 680 personnes qui ont été interceptées en mer par les gardes-côtes libyens.
Quand même.
Alors qu'elles tentaient de quitter le pays, ce qui est assez impressionnant comme chiffre. Mm-hmm. D'ailleurs, 2 jours avant la publication du rapport, les gardes-côtes libyens ont tiré des coups de feu en l'air pour empêcher l'Ocean Viking, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, de procéder au sauvetage d'une embarcation de migrants en détresse.
Ouais.
Pour protéger ses équipes, le navire humanitaire a été forcé de quitter les lieux à toute vitesse, alors que les gardes-côtes libyens continuent à tirer des coups de feu. Les 80 migrants qui étaient entassés dans un canot pneumatique, eux, ont finalement été récupérés par les gardes-côtes. Et renvoyés dans le pays. Et c'est pas la première fois, on le sait, là, que les gardes-côtes libyens sont accusés d'utiliser leurs armes pour menacer, voire tirer sur des exilés ou des humanitaires en mer. Par exemple, en février 2022, c'était le dernier incident comme ça là en date. Ils avaient tiré sur une embarcation d'environ directement sur l'embarcation d'environ 80 migrants pour les empêcher de continuer leur route vers l'Europe. Il y a un exilé qui était mort et trois qui avaient été blessés. Puis l'an dernier, en plus, l'Union européenne a elle-même reconnu dans un rapport confidentiel que les autorités libyennes ont recours à un usage excessif de la force envers les migrants, puis que certaines interceptions en Méditerranée ont été menées à l'encontre de la réglementation internationale, mais ça, c'était sans pour autant mettre fin à leur collaboration.
Et que les Européens informent les Libyens, même si c'était pas dans les eaux libyennes.
Hein? Exact.
Ouais, ouais.
Et donc, ben face à tout qu'est-ce que fait l'Union européenne?
Se gratte la tête.
Oh, si au moins elle ne faisait que ça.
Ouais. Elle donne plus d'argent à Frontex.
Simon, il brûle. Elle a renouvelé jusqu'en 2025 son accord avec la Libye.
C'était déjà prévu. On change pas les affaires.
Ça vient d'être fait, là.
Font tellement un bon travail.
Donc, son soutien financier va être de plus de 16 millions d'euros. Et en plus d'assurer la formation des gardes-côtes libyens, la livraison de bateaux, comme je disais, l'accord prévoit aussi de contribuer, et je cite, à la perturbation du modèle économique des réseaux de passage clandestins et de traite des êtres humains par la collecte d'informations et les patrouilles aériennes. Tu le mentionnais, Mathieu.
Ben oui.
Le partage d'informations. Bon, cet accord-là vient en appui d'un autre accord signé entre la Libye et l'Italie. Qui est soutenu par l'Union européenne. Le texte vise depuis 2017 à lutter contre l'immigration clandestine en donnant carrément aux autorités libyennes la charge de la coordination des sauvetages au large des côtes italiennes, tâche qui incombait avant au centre de coordination de sauvetage maritime de Rome ou de La Valette à Malte. L'Italie équipe elle aussi et forme elle aussi les autorités libyennes pour intercepter les gens en Méditerranée. Donc, il manque pas d'aide, hein, les Libyens.
Ben non.
Enfin, je termine sur un chiffre, un autre triste chiffre. Depuis 2016, t'étais impressionné, Mathieu, du 24 000. Là,
oui.
Ben, depuis 2016, date du premier accord entre l'Italie et la Libye, il y a plus de 130 000 personnes qui ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye.
Quand même. Puis tu disais qu'il y avait de l'argent aussi pour les migrants aussi, de l'Union européenne?
Non, mais c'est ce que l'Union européenne a dit.
Pour les brosses à dents, serviettes sanitaires, c'est...
Ben, l'Union européenne, c'est ce qu'elle a dit. Tu sais, elle a dit que cet argent-là, elle sert à lutter justement contre les passeurs clandestins, puis à aider les gens sur place, puis les réseaux sur place. Mais...
Ils sont dans des prisons horribles et puis ils se font... non, ça n'a pas de bon sens. Là.
Bref, c'est la politique de l'autruche. Puis,
Elle est bonne, Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne. Là.
Ah, j'ai oublié son nom.
Oui, Ursula von der Leyen.
Non, regardez-moi pas.
Ah, OK, j'aurais dû me préparer mieux. Désolé. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces actualités européennes, mais méditerranéennes, finalement, quand même pas mal.
Ouais, ben c'est par la bande là, ouais, c'est ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas un petit peu tapé sur la tête de l'Union européenne.
Oui,
ça
c'est
fait
nombreuses
bien.
Contradictions. Oui, tout c'est à fait. Ça. On va aller à la musique avec notre deuxième pièce. C'est un groupe qui s'appelle Screaming Females. C'est un trio rock, qu'on peut dire, du New Jersey, actif depuis 2005.
Qu'on a déjà vu en concert, Mathieu.
Ah oui, hein, je me rappelle pas. Okay,
bien sûr, au Ritz PDB.
Ah oui, c'est deux gars et une fille, hein. C'est bien
exactement.
Ça. Oui, tout à fait. Et que je suis genré. La pièce Titan de l'album Desire Pathway, sorti en février dernier, c'est tout récent. Ça vient juste de quitter le palmarès anglophone de Choc là, la semaine passée. Donc, on y va avec les Screaming Females.
Do what I want, I still feel. How much will tide me over?
les Screaming Females, la pièce Titan, donc, qu'on vient d'entendre à l'émission. Je vous parle un peu, on voyage beaucoup ce soir, je vous parle un peu du Kenya, une histoire qui est sortie, qui est pas nouvelle, mais il y a un article du Devoir à la fin mars qui était assez intéressant, qui s'intitulait « Terre volée par les colons blancs, des Kenyans réclament justice ». Je vais vous résumer un petit peu l'histoire. En 1895, les Britanniques ont commencé à régner sur le Kenya. On peut dire ça comme ça. Les survivants des tribus Kipsigi et Talai, je ne sais pas si je prononce bien, ont été profondément marqués par les multiples violences coloniales et les vols de terres survenus dans la région jusqu'en 1963, à l'indépendance du Kenya. Le Kenya est l'un des plus grands exportateurs de thé dans le monde, si on le sait, et la ligne de fracture est bien présente entre les réserves rurales autochtones où vivent les déplacés de ces tribus-là, et les immenses plantations du comté de Kericho. Les survivants estiment que près de 200 000 acres sont maintenant la propriété de multinationales britanniques pour la plupart, qui vendent leur thé à travers le monde, comme Ekaterra, qui s'occupe de Lipton, Unilever, Finlay's et Williamson Tea. En 2021, un rapport de l'ONU a chiffré à 500 000 le nombre de personnes qui ont souffert de violences sous le règne britannique, violant leurs droits, dont des violences sexuelles, tortures, tueries, traitements inhumains, détentions arbitraires, déplacements forcés, etc. 120 000 Kipsigi et Talai sont présentement représentés par une équipe d'avocats du Royaume-Uni et du Kenya qui ont entrepris des démarches judiciaires en 2014 à la suite de l'appui de l'intervention du gouvernement du comté de Kericho au Kenya. À l'époque, il n'y avait pas de titre de propriété sur les terres communales des Kipsigi et des Talai. Les titres ont été introduits par les Britanniques et l'administration coloniale britannique consignait tout sur papier, même la façon et le nombre de maisons qui étaient brûlées pour chasser les gens. Hein, quand même, fait que tout est dans les archives, tout est encore disponible. Des démarches ont été entamées devant la Commission nationale foncière et les tribunaux kenyans, mais l'année dernière, une poursuite a été déposée contre le gouvernement britannique pour demander réparation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les victimes demandent 168 milliards de livres sterling, c'est 280 milliards de dollars canadiens, en indemnisation et des excuses de la part du Royaume-Uni. En terminant, le Bureau britannique des affaires étrangères et du Commonwealth a répondu récemment avoir reconnu en 2013 que les Kenyans avaient été victimes de mauvais traitements de la part de l'administration coloniale. Je les cite, « Nous regrettons que ces mauvais traitements historiques aient eu lieu et qu'ils aient entravé les progrès du Kenya vers son indépendance. » Donc, à voir ce qui va arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, dont le Royaume-Uni est toujours membre, là, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne.
C'est vrai.
Mais 168 milliards de livres sterling et des excuses, ça va être quelque chose. Donc, on a parlé d'autres dossiers, d'autres cas en Afrique, de poursuites, de restitution, de réparation.
Ouais, d'œuvres d'art.
D'œuvres d'art, mais aussi de réparation, entre autres en Namibie pour les Allemands, par rapport aux Allemands, tout ça. Fait qu'on continuera à suivre le dossier.
Certains cas, rétrocession de terre, là, il semble pas en être question dans ce cas-là.
Mais dans les réparations, peut-être ça peut être négocié, mais c'est à voir. Okay. Donc, on y va, je pense. Oui, c'est le grand retour. C'est la minute coloniale.
Eh oui.
Alors, on met le...
On peut la partir. Là, je me suis lâché un peu. Là, je ne suis pas sûr. En tout cas.
Les apatrides anonymes vous présentent la minute coloniale. En ce divin mois de mai, mois de Marie, quelle plus pétillante façon de se ragaillardir le Canadien que de se rappeler à quel point notre très sainte mère l'Église, au fil des siècles, n'a su ménager les efforts de préservation de notre si noble culture. Non seulement nos bons ecclésiastiques n'ont eu de cesse de ramener les femmes canadiennes françaises à leur devoir conjugal, ce qui permit à notre race de prospérer par le nombre, mais constants furent les efforts pour instruire les braves enfants de notre peuple élu au sein d'institutions d'une pureté exclusivement française et catholique romaine, exempte de toute contamination extérieure. Ainsi, les Juifs, même si parfois francophones ou désireux d'apprendre la langue de Saint-Louis, se virent, pour des raisons évidentes, refuser l'accès à nos établissements scolaires. Par souci de vengeance, ils se tournèrent alors vers les protestants, qui, dans un complot multiculturel, les accueillirent à bras ouverts, au point même d'en arriver à offrir l'enseignement en français aux ouailles hébraïques qui t'en firent la demande. Notre résistance académique aux éléments étrangers, qui survécut même à l'infâme révolution dite « tranquille », sera malheureusement torpillée à la toute fin du XXe siècle par ce phénomène abject que l'on appellera la déconfessionnalisation des commissions scolaires, un véritable suicide collectif. Mais calmons-nous et respirons un grand bol d'air béni. Après tout, c'est le printemps, saison de renouveau et cadeau de Dieu. N'oubliez pas, chers brebis, de sortir vos plus jolis couvre-chefs fleuris pour assister à la procession solennelle de la fête Dieu qui approche à grands pas. Les protestants nous accuseront, comme à chaque année, d'établir le trajet au cœur de leur quartier, ce qui entraverait l'accès à leur lieu de culte, mais vous savez bien qu'il n'en est rien et que ces accusations sont fallacieuses. C'était la Minute Coloniale présentée par les Apatrides Anonymes.
Incroyable!
Oui, ben c'est merveilleux. Écoute, Simon, c'est tout un montage. Puis j'aime la musique des films porno des érotiques des années 70 avec les bruits d'animaux et la voix du jésuite.
C'est non, un bon mélange. Tu as tout faux, là. C'est de la flûte de Pan.
Oui, oui.
Oui, mais il y en avait
d'autres. Dans Emmanuel, il y en avait.
Oui, c'est ça.
Ah, j'ai jamais regardé ces affaires. je sais pas.
Menteur!
Chastes oreilles, abstenez-vous!
Écoute, pour le devoir conjugal, ça peut aider aussi.
Donc, tu nous parlais du mois de mai, et puis les commissions scolaires, et puis...
Je vais essayer d'apporter un complément d'information. Surtout, je voulais parler de la question de l'intégration des confessions autres que catholiques dans les écoles françaises du Canada français.
Oui.
Donc, c'est évident que je ne ferai pas le tour de la question en deux minutes, mais il y a des points de vue opposés qui s'affrontent, et c'est intéressant de les partager. Sur la question vraiment spécifique des écoliers juifs qui ont effectivement été intégrés au réseau scolaire protestant, qui était la base anglophone et non francophone, il y a des historiens qui affirment que les communautés juives n'étaient pas intéressées, à cause de toutes sortes de préjugés, à intégrer les réseaux scolaires francophones. Donc, exemple de préjugé qui est donné, la langue française, ce serait pas la langue du business, ce serait la langue des pauvres, etc. C'est une thèse plutôt fragile qui s'appuie sur pas grand-chose de concret, en fait, et qui est surtout défendue par des historiens nationalistes.
Mm-hmm. Conservateurs aussi,
oui. Conservateurs, ben maintenant, oui, c'est ça. Comme des, je sais pas si on a des noms, là, des Gilles Proulx, là, vous en faites compte.
Oui, bon historien,
ah, Gilles Proulx. Ouais.
Puis certains dits sociologues, là. D'autre part, ben il y a d'autres historiens qui disent plutôt que l'accès aux écoles françaises était carrément bloqué aux enfants juifs, qu'il y avait une politique concertée de fermeture. Donc, dépendamment de votre affiliation idéologique ou constitutionnelle ou de votre niveau de nostalgie de l'Église qui contrôlait tout, vous allez probablement défendre l'une ou l'autre de ces deux thèses-là.
Mm-hmm.
Mais pour vraiment y voir plus clair, si la question vous intéresse, je crois avoir trouvé l'article le plus complet et nuancé. On le trouve facilement en ligne, ça se lit très bien. Le titre est... L'intégration scolaire des Juifs francophones et le bulletin du Cercle juif 1954-1968. Donc, ça a l'air assez ciblé, mais il n'y a pas beaucoup de documentation sur le sujet.
OK.
C'est signé Jean-Philippe Croteau pour le compte de l'Association québécoise d'histoire politique. Ça a été publié en 2002, donc juste après la déconfessionnalisation. Merci, des commissions scolaires québécoises qui s'étaient produites en 98. L'article se penche beaucoup sur des débats qui ont eu lieu sur la question, surtout autour des années 50-60, en raison d'une importante immigration juive séfarade, arrivée dans les années 50 surtout, des Juifs francophones qui vont être intégrés malgré tout au réseau scolaire protestant.
Ah oui, OK.
Ben oui. Donc, l'article dépasse largement ces années-là pour remonter beaucoup plus loin, notamment une loi de 1903, qui stipule très clairement que les enfants juifs, on les inscrit dans le réseau scolaire protestant, point final, et ça va carrément figer les institutions, déconfessionnalisation, institutions, pour le siècle à venir, sans qu'aucun effort soit fait pour changer la situation, aucune remise en question, même pas à la Révolution tranquille, pour sortir de ce genre de carcan-là. Donc, aucun amendement à la loi n'a été présenté non plus. Va carrément falloir attendre que le réseau scolaire protestant offre l'école en français dans les années 60 pour que les immigrants francophones non catholiques puissent recevoir leur éducation en français. Donc, par les protestants.
Qu'ils soient juifs ou quoi que ce soit. Là,
c'est ça.
Ouais.
Donc, il n'y a pas nécessairement de fermeture exprimée ou planifiée telle quelle de la part du clergé ou de la part des commissions scolaires comme la CECM, là, l'ancienne commission des écoles catholiques de Montréal. Mais en fait, il n'y a aucun effort non plus pour tenter d'intégrer les Juifs séfarades ou de France, ou encore les Grecs orthodoxes ou les Arméniens au réseau public scolaire francophone.
C'est un système rigide.
Tout ce qui n'est pas catho, c'est pas dans le réseau public francophone.
Exact.
Et aujourd'hui, dans certains cercles, on se désole que des communautés culturelles se soient anglicisées, on les pointe du doigt, on les accuse d'avoir tourné le doigt à la langue française. Mais il y a des raisons historiques pour ça, et c'est clair que les francophones sont en partie responsables. Donc voilà, j'espère avoir pu apporter un éclairage sur cette question, mais c'est évident qu'il y aurait plein de d'autres choses à dire, comme sur ces processions de la fête Dieu.
Oui, oui.
Qui, effectivement, on disait que c'était souvent fait exprès pour emmerder les protestants, un peu comme à Belfast, mais à l'envers. Là. C'était les catholiques qui allaient faire les parades dans les quartiers plus anglophones.
Ah, intéressant, mais tu nous en parleras. Puis merci pour les explications sur l'intégration des jeunes non catholique ou pas dans les commissions scolaires.
Ben, je ne peux pas laisser notre jésuite avoir le dernier mot.
Là, non, avec la chèvre à la fin, là, c'est ça. Là,
dire, que... Un an.
Oh! Donc, on y voit que l'agenda. Donc, à l'agenda, on est le 4 mai. Le 6 mai, dans deux jours, c'est samedi, il y a deux choses dont je vais vous parler. Une autre manif de Solidarité sans frontières, un statut pour tous et toutes, qui s'appelle « La musique dépasse les frontières ». Pardon. C'est un concert en plein air et une manif. Ça se passe au Métroparc, à la gare Jean-Talon, à midi le 6 mai. Il y a un concert, il y a un potluck et il y aurait une marche aussi. En vedette dans les performances musicales, il y a la fanfare d'occasion, il y a G-Tram, Los Mosca, mais je ne connais pas les artistes, mais c'est à voir donc ce samedi midi si ça vous intéresse. Une conférence en virtuel et en présentiel présentée par Amnesty, c'est vraiment leur émission.
Les radicaux.
Ils pourraient nous payer.
Hein? Oui, vous envoyer des copies de rapports peut-être.
Ben ouais.
La répression meurtrière au Pérou, nouvelle preuve du mépris de l'État à l'égard des populations autochtones et paysannes. Samedi de 13h15 à 14h15, soit à la Assemblée générale en direct, mais c'est disponible pour le public en ligne. La directrice d'Amnesty du Pérou, Marina Navarro, sera sur place à Montréal pour présenter la lutte actuelle du peuple péruvien, notamment les populations autochtones et paysannes, la répression auxquelles elles font face depuis le début des manifs et les actions de solidarité qu'on peut poser. Un petit rappel que depuis le 7 décembre 2022, le Pérou traverse une très grave crise politique qui touchait déjà le pays depuis plusieurs années en raison de différents conflits entre les différents paliers politiques. Mais ça aboutit donc en décembre à l'arrestation de l'ancien président Castillo et à l'investiture de la vice-présidente Dina Boluarte comme nouvelle présidente. Et il y a eu des manifs dans plein de régions. Ils ont été violemment réprimés. À date, il y a 48 personnes qui sont mortes depuis décembre au Pérou. Plusieurs milliers de personnes blessées. Et il y a eu l'état d'urgence le 15 décembre qui a empiré la situation. Et qui a fait encore qu'il y a eu encore plus de répression et de décès. Et en février, Amnesty avait déployé une équipe régionale de réponse aux crises dans le pays et elle a dénoncé la violence meurtrière et raciste employée contre les manifestants, la grande majorité étant des personnes autochtones ou paysannes qui ont été tuées ou blessées. Et donc ça, c'est le 6 mai. Et le lendemain, le 7 mai, il y a une manif qui s'appelle Rassemblement contre la dictature au Pérou. C'est le collectif Solidarité Québec-Pérou qui organise ça au métro Jean-Talon, donc à 16h le dimanche 7 mai. Eux autres, ils parlent de l'ultra-droite conservatrice qui a fait un coup d'État contre le président Castillo. Le discours est un peu semblable, mais pas pareil. Et on parle de massacres et violations des droits humains. Et aussi que les peuples Améra et Quechua ont été particulièrement ciblés. Mais qu'il y a un exercice de soulèvement en cours, quand même politique, intéressant dans le pays. Donc, pour renverser ou pour remplacer le système corrompu actuel. Et peut-être vous dire aussi que il invite toutes les communautés péruviennes, latino, canadiennes, québécoises, autochtones, à venir manifester, donc le 7 mai à 16h au métro Jean-Talon. C'est le lendemain de la conférence par rapport au Pérou. Et j'aurais une dernière chose à vous présenter. C'est Simon qui me l'a suggéré de parler de l'ATSA, anciennement l'Action terroriste socialement acceptable, qui est maintenant Quand l'art passe à l'action, qui s'appelle aussi Cuisine ta ville. En tout cas, il faut suivre. C'est Mme Allard, je pense que c'est Mme Allard son nom, qu'il faut la suivre. C'est les 25 ans de l'ATSA. C'est du 5 au 14 mai à la Place des Festivals. Je vais vous parler rapidement des conférences et tables rondes. Conférences, c'est beaucoup sur l'immigration. Il y a le PREDA qui fait une conférence. Il y a la gang de Le Québec, c'est nous aussi, qui vont parler de la réalité des personnes avec une approche des droits. Il y a aussi Émile Régnier, qui est une haïtienne photographe qui a photographié beaucoup l'Afrique, qui va faire une conférence. Il y a Ivan Ate Huerta de Colombie, qui a sorti un roman graphique qui s'appelle « À la rencontre des néo-québécois ». Il y a Action Réfugiés Montréal qui présente aussi une conférence. Amnesty encore, mais on va laisser tomber. Le Centre de ressources en interculturel. La TCRI et les femmes relais sur les parcours de femmes immigrantes. Le Centre social d'aide aux immigrants. Anna Mapache qui est de Pigogan, qui va parler des cultures autochtones. Le collectif Femmes, Vie, Liberté de Montréal avec Nima Machouf, Genèse de la Révolution en Iran. Et aussi Manal Joma, qui va parler de Beyrouth, ville meurtrie, ville résiliente. Et il y a un dernier truc, une table ronde avec Native Immigrant, qui est un organisme dont la mission est de créer des dialogues culturels et artistiques entre les personnes immigrantes autochtones et les Premières Nations.
C'est intéressant quand même.
Fait que voilà, ça se passe donc à la place des festivals pendant à peu près 10 jours. Allez voir l'horaire. Et je termine donc avec Mediapart, la haine ordinaire, des vies percutées par le racisme. Qui connaît ce chiffre? En France, plus d'1 million de personnes par an sont victimes d'actions racistes, qu'il s'agisse de violences ou d'injures, de menaces ou de discriminations. Où sont passées les masses de témoignages? Dans les grands médias, ces voix sont banalement étouffées. Au mieux, leurs histoires indiffèrent. Au pire, elles incommodent. De plus en plus, elles sont niées et délégitimées. Dans ce livre, 13 récits nous amènent, par exemple, dans une fête de village qui vire au lynchage de 2 jeunes noirs juste venus boire une bière. Dans les soirées d'une fanfare étudiante où un musicien devient le juif. Dans un magasin où une vendeuse est chassée par une vieille dame qui veut lui arracher son voile. Dans l'album photo d'une artiste franco-mongole qui voulait avoir l'air la plus blanche possible, ou dans un village de Juste qui a jadis sauvé des Juifs, mais où l'installation d'un entrepreneur prénommé Yacine déclenche les pires rumeurs et jusqu'à un incendie. Donc, c'est un livre de Mediapart, 340 pages, ça sort demain, 5 mai, et voilà, c'est assez percutant comme le titre le dit, donc ça vous tente de vous procurer ça. C'est sur Mediapart, tout se passe en ligne, fait que j'imagine que ça doit être possible d'avoir ça en ligne, j'imagine.
Ouais, peut-être, mais c'est sûr que c'est surtout disponible en France. Mais...
Merci de la précision. Donc, on va y aller donc avec quelques notes de musique et on fait l'intro et après on se dit bye-bye. Donc, ben on va se quitter là-dessus avec une dernière pièce. Avant, je vais saluer mes collègues Marie-Ève et Simon. Merci pour votre beau travail.
Merci Mathieu.
Merci à l'animation, très cher.
Merci beaucoup. On roule CR. Donc, ben vous dire qu'on est rejoignable sur notre site, sur la page Facebook, sur la page de Choc, sur notre page Facebook aussi. Qu'on va être de retour le 18 mai, donc dans 2 semaines. Et je voulais faire un petit shout-out aux assos étudiantes de l'UQAM qui luttent actuellement, certaines, pour ne pas perdre leurs locaux à la jonction des pavillons Aquin, Jasmin et Gestion. Pour ceux et celles qui connaissent l'UQAM, l'administration leur a annoncé à fin de session qu'elle les expulsait manu militari, quelque chose comme à la fin mai. Donc, il y a une lutte et une résistance actuellement pour ne pas perdre ses locaux et se retrouver éparpillés chacun de son bar un peu partout dans l'UQAM.
Ah oui, divisé pour mieux régner.
Exactement. Il y a un nouveau recteur qui est rentré d'ailleurs en poste la semaine passée.
Ah, quelle coïncidence!
Comme par hasard.
Je veux que l'UQAM devienne prestigieux.
Exactement, exactement. C'est un ancien prof et directeur du département de gestion. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit salut. Donc, ben c'est ça. On vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous allez nous réécouter nos émissions, cette émission-là ou nos émissions passées sur notre page, sur le site de Choc. On va terminer avec Rofo Rofo Jazz, la pièce Love in Time. C'est un septet français qui fait de l'afro jazz rap, bien inspiré de l'afrobeat. Et Rofo Rofo, dans une des langues nigérianes, ça veut dire boîte ou mode ou gadou. Ou donc, prenez le terme que vous voulez.
Oh.
C'est leur premier album, mais c'est des musiciens expérimentés, mais c'est leur premier album qui s'appelle Running the Way, qui est sorti en janvier dernier. Donc, on va y aller avec un petit beat dansant pour terminer.
Super.
Mais c'est une nouveauté et c'est très bon.
On va laisser faire les cris de bourrique.
De bourrique ou de eux contre nous, de la oïe. Donc, on se laisse avec Rofo Rofo Jazz, Love in Time. À dans 2 semaines.
Bonne soirée.
This is what love is like when you have to adapt to. which way the path moves, giving up, or fuel the fight when you have to ask, lose, trying to find the timing in the last move, this is what, loving time, we feel like stuck mid turning the blur, will the shield rise if you did, but didn't brace for kickback from the impact, in fact, you shook with shock intact, movement correct like a limbs business, link missing, he's analog like your link isn't, lean into the scene like you seen, but the team's about to fire, with the dream screaming, dismissing, give your lover get got, give your lover sit rock, realize it's ruffle ruffle, rip spot, this what, that who knows, which living love knows, they gotta give it up quick, pride. We keep in love and time in the now. You stay in the past and your past not renowned. The way of the walk may be stone, but we own it in spades. Advance like a whole nother day. The chance that we hold like an ace gets turned up like facing the plate and they fold like we gain. Loving, timing it out. You stay in the past and your past not renowned. The way of the walk may be stone, but we own it in spades. Advance like a whole other day. Chance that we hold like an ace get turned up like face in the play. And they hold like we gain. It's no return, 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 return. It's no return, 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 return. It's no return, return, return. It's no return, return, return. Giving buzz, we gonna get the cause of rhythm funk. Doobies live, Calibre with Afro, wisdom one. Vision comes with the meditation. Medicated, better brave within the sound. We leave educated. Edified, no edifice. We have a pleasure place to definitely define. Like measure with the heaven's haven. Seven savings give every face a better base. To give a treasure chest, the biggest bet can be whatever's weighted. Whatever's weighted, don't give actual balance. Like the never, never, what the bug gives is shredded. Let it settle. Let it settle, but never for let it. Simple solutions, but change minds like brains out when set of letters. 44 duds, a lot of MCs, ECBD, expensive. Of shit and no more buzz. It's in the strains when mixing breeds. Pay attention, the product may be tension. Now convince the seeds. We keep it love in time in the now. You stay in the past and your past not renowned. The way of the walk, baby, stone. We own it in spades. Advance like a whole nother day. The chance that we hold like an ace gets turned up like face in the play and they fold. Keep it love in time and now. You stay in the past and your past not right now. The way of the walk may be stone. We own it in spades. Advance like a whole nother day. The chance that we hold like an ace turned up like face in the play. And they vote like we gain. It's a return, 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 return. It's a return, 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 return. It's the return, return. Bring it back. We keep in love and time in and out. You stay in the past and your past not renowned. See the chance that we hold like an ace gets turned up like face in the play and they hold like a game. We keep in love and time in and out. You stay in the past and your past not renowned. The chance that we hold like an ace gets turned up like face into play and they fold like we gain is the return, 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 return. It's a return, 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 return. It's a return, 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 return. Listen for it. It's a return, return.